Bonjour à tous, je suis Hugo Sanudo. Je développe des projets liés au foot à travers le monde et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de En dehors de ma surface. En dehors de ma surface, c'est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres et expériences de vie avec des acteurs du football. Aujourd'hui, notre invité est Franck Simon. Franck, c'est la référence du foot africain en France. C'est une véritable encyclopédie. Journaliste, reporter, commentateur, Franck a travaillé pendant plus de 30 ans à France Football et collabore avec RFI, Canal Plus Afrique ou la BBC comme spécialiste du foot africain. Depuis tout petit, Franck est passionné par l'Afrique.
Je me suis spécialisé parce que j'avais cette passion en fait. C'est pas l'inverse. Hein. C'est pas parce que je suis devenu journaliste que c'est surtout que c'était une passion qui m'habitait depuis ma plus tendre enfance, le football africain et le continent africain, la culture, les gens, etc.
Vous allez entendre un homme passionnant, très attaché à ce continent.
Maintenant, je suis intimement lié, je dirais, dans ma vie de tous les jours, au continent africain. Mon épouse est ivoirienne et il ne se passe pas un jour sans que je pense au continent et à mes prochains voyages.
On aborde entre autres la présence des entraîneurs français en Afrique et l'absence des entraîneurs africains en France. Le foot de rue à Abidjan avec le tournoi du Maracana qui se joue léqué au pied, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Sa rencontre avec Jean-Marc Guillot au début de cette aventure. Bonne écoute. Bonjour Franck, comment vas-tu?
Bonjour Hugo, tout va bien.
Ouais, très content de te recevoir aujourd'hui. On est à Paris. On vient de déjeuner pour être complètement transparent. On vient de passer un bon moment et on s'est dit, on continue notre discussion qu'on est en train d'avoir, mais en enregistrant.
Exactement.
Donc aujourd'hui, Franck, comme je te disais, moi, ça fait plusieurs mois que je fais ce podcast. Je discute beaucoup avec des entraîneurs français et naturellement, nos voyages, nos aventures nous emmènent en Afrique. Et c'est vrai que tout au long de mes échanges avec ces entraîneurs, il y a le nom de Franck Simon qui sort très souvent. Donc voilà, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ton nom sort tellement avec ces entraîneurs français qui sont partis en Afrique?
Alors pourquoi les entraîneurs ils parlent de moi? Bah sans doute parce que je fais partie des casse-pieds qui les dérangent depuis tant d'années, tu vois. C'est-à-dire, à un moment donné, je me suis dit, ce sont des techniciens qui ne sont pas forcément valorisés. Je pense à un de mes amis aujourd'hui disparu qui s'appelait Serge Devez, qui était un gars de Béziers, de Montpellier, et qui a fait une carrière en Afrique pendant une quinzaine d'années. Et c'est quelqu'un qui n'était pas très valorisé dans les médias français notamment. Alors, à un moment donné, je me disais, Ces techniciens-là, qui sont des joueurs, des anciens joueurs, il faut que je les suive, il faut que je fasse cet effort, leur dire, voilà, vous n'êtes pas seul, vous travaillez en Afrique, parfois même ailleurs, parce qu'on s'est connus quand ils étaient en Afrique, certains après sont partis dans le Golfe ou ailleurs, mais j'ai continué de les suivre et je ne me force même pas pour ça. Presque maintenant, c'est devenu un jeu de piste de les retrouver. Tout dernièrement, j'ai envie de dire, j'en ai découvert. C'est pas une découverte, mais c'est surtout que j'avais pas vraiment connaissance du travail qu'ils effectuaient. Stéphane de Filippo, qui est à l'ASFAN du Niger, et Daniel Bréard, qui est au CI Kamsar, en Guinée. Je suis très heureux d'avoir pu échanger avec eux, et je m'en voulais beaucoup de ne pas avoir eu à leur parler avant, leur avoir donné la parole, la possibilité d'expliquer aux lecteurs français tout simplement ce qu'ils font. Parce que leur travail est très méritoire et pas forcément valorisé par la grande famille du football français. Je suis français, donc c'est normal que je les suive. Je ne suis pas que ça dans le football africain, mais voilà, ce sont mes compatriotes. On a en commun cette passion pour l'Afrique et je me suis dit, allez, je vais avoir un œil sur eux et je ne vais pas le lâcher, tout simplement.
Et parce qu'il y en a énormément, en fait.
De plus en plus.
On fait ce travail. Bah, Emmanuel Trégois est en train de faire ce travail à l'UNECATEF, d'essayer de recenser.
Et on l'aide.
Ouais, et voilà, justement, il me disait que dès qu'il avait un problème pour savoir où est-ce que cet entraîneur, il t'appelle. Et toi, tu sais, j'imagine chez toi, tu dois avoir une carte de l'Afrique et tu sais, tu mets des petits pions sur...
Ça, si tu savais, c'est beaucoup plus simple et plus prosaïque que ça. Mais disons qu'avec le temps, on sait à peu près. Ce qu'il y a, c'est que ça bouge beaucoup.
C'est ça.
C'est une matière humaine, donc c'est-à-dire que ça bouge beaucoup. On avait par exemple Lionel Sokoya qui était au Nigeria, du côté des Kano Pillars, et qui est rentré il y a quelques semaines ou mois du Nigeria. Il a fallu que je l'appelle pour lui demander. Je dis, Lionel, tu es toujours sur place à jouer le titre ou pas? Il m'a dit, non, écoute, mon aventure s'est arrêtée. Donc voilà, il y a des gars qui étaient ici, qu'on retrouve là. Ça va très vite. C'est aussi cela, le continent africain. Et du coup, ben, un petit peu comme Manu Trégoat, et c'est pour ça qu'on échange beaucoup tous les deux aussi, c'est d'être en capacité de faire le point sur tous nos compatriotes, toute cette diaspora des entraîneurs français en Afrique. Alors après, je suis aussi les Belges ou les autres, mais bon, ils sont moins nombreux, les Belges. Les Français, ce sont mes compatriotes. Je les connais, je les ai souvent dérangés. Et j'échange avec eux parfois au quotidien, grâce à WhatsApp et tout ça. Ça permet de se tenir informé. On en a un qui a remporté une coupe, encore hier. Didier Gomez d'Arosa avec Simba de Dar es Salaam en Tanzanie. Il a fait le doublé. Donc c'est normal. Voilà, on est là, on est au plus proche d'eux. On dit, voyez, on regarde ce que vous faites. Vous n'êtes pas oubliés. La grande famille du football français en Afrique, ce n'est pas que la fédération ou l'UNECATEF. Ouais. Il y a aussi des gens comme toi, comme moi, qui, tout simplement, qui nous intéressons à ce travail.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai, justement, je pose souvent cette question à l'entraîneur français qui part à l'étranger. C'est si ça ne le dérange pas, cette étiquette de baroudeur, dans ce sens-là où ils sont un peu, des fois, un peu mis de côté, justement, avec le système français. Et il y en a, ils disent, tous me disent, non, c'est une richesse, on est fiers de ce côté de voyageurs, en fait. Mais c'est vrai que pour le foot français, des fois, ils sont un peu mis à l'écart.
Oui, c'est souvent compliqué, je crois, pour eux de rebondir, en fait, après des missions africaines, parce qu'ils sont un peu connotés. On dit, ouais, c'est des baroudeurs, ils ont fait l'Afrique, alors qu'en fait, en l'espace d'un an, deux ans, sur le continent africain, que ce soit une équipe nationale ou un club, mais en fait, tu grandis, tu vieillis, tu gagnes en expérience beaucoup plus qu'un entraîneur, je dirais, français qui va être en National ou en Ligue 2 ou en Ligue 1. Parfois, tu gères aussi des effectifs constellés d'internationaux, avec plein de nationalités, avec, pour ceux qui ont des fonctions étendues, ils sont aussi un peu managers généraux, tu as aussi la caisse, hein, l'argent à gérer. Et certains sont à la tête de très grands clubs auxquels ils n'auraient pas forcément, malheureusement, pu prétendre dans notre pays. Donc, je trouve que cette connotation vis-à-vis d'eux, elle est profondément injuste. Et malheureusement, on a souvent parlé presque d'une malédiction sur les Français qui travaillaient en Afrique, que c'était compliqué pour eux de revenir, qu'ils n'avaient pas forcément la même réussite. C'est vrai que c'est compliqué. Quand tu as été un technicien dans un grand club africain, une grande équipe nationale, de retrouver une réalité française franchouillarde où ça ne bouge pas toujours, etc. Il faudrait poser la question, si tu ne l'as pas déjà fait, à quelqu'un comme Sébastien de Sabre, qui est à Niort, qui a beaucoup travaillé en Afrique depuis 10 ans. Et voilà,
C'est un peu un des rares, non?
Là, il est revenu, c'est sa deuxième saison au Chamois Niortais. Il faudrait sans doute l'interroger, voir comment il a vécu ça. Je pense qu'il a vécu beaucoup plus d'aventures en 10 ans en Afrique. Après, je pense qu'il a eu la satisfaction de sauver les Chamois la saison dernière. Et avec en plus son meilleur ami Sébastien Minier, mais qui entre-temps, tu l'as vu, est reparti en Afrique. Il a pris un club en Afrique du Sud. Donc lui a la bougeotte, Minier. Et donc De Sabre, lui, avait envie de se recentrer sur le foot français. Il faut leur donner plus de crédit, il faut les respecter. Je trouve qu'ils peuvent apporter énormément au foot français et européen. Après, on sait comment les dirigeants sont frileux dans le football français. Il faut que tu trouves des dirigeants qui acceptent de prendre quelqu'un qui est riche de vécu, d'expérience à l'étranger et qui peut apporter tout ça à une entreprise de foot.
Et tu crois, toi qui aussi as une vision sur le foot européen en général, il y a des pays où ils sont plus appréciés, ces profils-là? Est-ce que, je ne sais pas, tu as cité la Belgique ou l'Angleterre est-ce qu'il y a des pays qui ramènent plus facilement des entraîneurs qui sont partis à l'étranger? Ou tous, on voit finalement que dans le foot européen, c'est toujours compliqué?
Non, c'est souvent compliqué, mais je trouve que ça l'est plus dans notre pays. Okay. Dire un entraîneur belge qui a travaillé en Afrique peut revenir dans son championnat, peut retrouver. Après, j'ai envie de te dire, on est dans une période malheureusement de pandémie. C'est comme un virus, cette passion du football africain.
Ouais.
Une fois qu'on l'a en soi, on n'a plus tellement envie de revenir dans son pays. On se fait son propre réseau. On a envie de continuer de vivre des belles choses. On s'aperçoit qu'on peut vivre son métier différemment, de façon plus riche, ailleurs que coincé dans l'Hexagone. Et moi, je les comprends bien, tous ceux que tu as déjà interrogés et qui ont envie de rester soit sur le continent africain, soit de continuer à vivre l'expatriation professionnelle. Je les comprends parce qu'ils sont heureux. Ça ne fait pas d'eux des milliardaires, hein, loin s'en faut. Mais ils sont heureux de richesse d'expérience, de rencontres. Ce n'est pas des touristes non plus. Mais ils s'épanouissent tout simplement. Ils sont heureux dans ce qu'ils font. Et quelque part, ils défrichent aussi un petit peu le terrain pour d'autres, pour les plus jeunes ou ceux qui seraient tentés par cette expérience. Après, on sait aussi qu'actuellement, il y a un mouvement sur le continent africain au niveau des médias, de l'opinion publique, où on aimerait avoir plus de nationaux à la tête des clubs et des sélections. Alors, j'ai beau être très proche de la diaspora des entraîneurs français d'Afrique, je comprends parfaitement cette envie, cette demande, parce qu'aujourd'hui, tu le sais bien, tu as plein de joueurs africains qui étaient professionnels il n'y a pas si longtemps, qui ont passé leur diplôme et qui pourraient très bien prétendre à des postes dans des grands clubs ou dans les sélections. Il faut aussi leur ouvrir la porte. Et eux ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui on fait plutôt confiance à des étrangers. Je n'ai pas dit des Français, hein, note bien. Mais on fait confiance à des étrangers plutôt qu'à eux, les nationaux, qui ont en plus parfois joué pour le pays, servi leur pays. Alors c'est un vaste débat. J'avoue que je milite quand même pour qu'effectivement, aller à moyen et long terme, les Africains puissent aussi travailler à la tête de leur sélection. Même si, honnêtement, et je pense notamment à mon ami Patrice Neveu, que tu as reçu il n'y a pas si longtemps, je sais que voilà, il y en a qui font du très bon travail. Ils sont décriés, c'est la rançon de ce métier, quoi, hein. Ils sont décriés, ils sont critiqués. C'est dans le milieu du foot, hein, on n'y échappe pas. Parfois, ils sont critiqués pour de mauvaises raisons. Hein, on ne doit pas te critiquer parce que tu es européen ou occidental ou blanc. On peut te critiquer parce que peut-être tu n'auras pas eu les résultats. Tu n'auras pas réussi à mettre en place une politique dans le jeu, une identité de jeu, de trouver des nouveaux joueurs, de nouvelles ressources. Il y a des choses qui peuvent être critiquées. En revanche, il ne faut pas critiquer pour les mauvaises raisons. Et puis, il faut aussi regarder la personnalité. Parfois, effectivement, ils peuvent être clivants. J'en ai bien conscience. Il y a certains techniciens français d'Afrique qui sont clivants. Mais il faut les accepter tels qu'ils sont. Avec cette riche personnalité, parfois très cassant comme ils peuvent l'être, mais c'est aussi des raisons qui expliquent qu'ils ont pu durer et aller ailleurs. Voilà. Et puis il y en a aussi un paquet qui ont envie de transmettre à leurs joueurs. Il y a d'ailleurs que ça. Ils ont envie de transmettre à leurs joueurs. Ils ont envie peut-être de leur donner le goût de ce métier de technicien plus tard. Ils travaillent aussi avec des encadrements souvent africains, donc ils ne sont pas fermés, loin s'en faut. C'est pour ça que actuellement, on est dans une situation, je trouve, un peu particulière vis-à-vis des techniciens français qui sont en Afrique. Et ça m'attriste un petit peu et en même temps, je le sentais venir.
Ouais. Et c'est vrai que les 20, 30 prochaines années, forcément, il y aura moins d'entraîneurs occidentaux en Afrique parce que aussi, il y aura une montée de niveau des entraîneurs et des formateurs locaux, et ouais. Donc forcément, c'est naturellement ce qui va se passer. En fait.
Bien, c'est ce que envisage. Ouais. Voilà, c'est-à-dire un joueur guinéen, camerounais qui aura fait sa carrière en Europe, étant parti du pays, qui aura fait 10-15 ans en Europe, qui aura passé ses diplômes, ou au pays ou en Europe, il a envie de revenir aider son pays. Alors, ça peut être dans une académie, ça peut être dans un club ou dans la direction technique auprès d'une équipe nationale. Il faut lui faire une petite place. Il a travaillé aussi pour ça. Après, il y a la question des moyens aussi. Souvent, on dit « Ouais, mais les entraîneurs africains, on ne leur donne pas les mêmes moyens de vivre, d'exister qu'un entraîneur occidental. » Malheureusement, ça a été souvent le cas. Alors après, oui, tu peux me rétorquer « Ouais, mais l'entraîneur occidental, lui, il vient dans un pays qui n'est pas le sien. » Donc, on le met un peu à l'aise. Pour qu'il ait un pied-à-terre, peut-être avoir un véhicule, un bureau, etc. Un national, il est dans son pays, a priori, il est censé avoir ce petit truc-là. Bon, c'est pas simple, hein, ces questions-là. Moi, je pense que les deux sont possibles. Je crois que tout est possible. Je crois qu'un entraîneur français, dès le moment où il a envie de s'investir dans la durée, il a tout à fait et parfaitement sa place. Ce qui serait bien, c'est que l'entraîneur africain, de la même façon, puisse avoir sa place dans nos championnats. Et il n'y en a pas assez. Et il y a un vrai souci de ce point de vue-là. Donc, les Africains disent « Ouais, mais vous envahissez nos bancs, mais nous on n'a pas la place sur vos bancs. » Il y a un vrai problème. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut entendre. Moi, je les entends parce que j'ai des connaissances, j'ai des amis des deux côtés. Et ça me, encore une fois, ça m'attriste et ça me chiffonne. J'espère que les choses vont évoluer positivement en particulier du côté français. Voilà, on est bien content de pouvoir exporter notre savoir-faire. Et Dieu sait qu'il y a des dizaines de techniciens français hors du pays. Mais il faut aussi accepter l'apport d'étrangers dans notre football. Mais pas que des Portugais. Voilà, par exemple, se dire qu'il y a sans doute des anciens internationaux africains qui peuvent très bien travailler. Actuellement, l'entraîneur qui est champion d'Afrique, c'est un Sud-Africain. Il s'appelle Pitso Mosimane. Il a la tête du Ahly du Caire. Il a été formé en Europe. Il a parfaitement sa place dans un club européen, français, anglais ou autre. Mais quel dirigeant, quel board va lui faire confiance? Je souhaite, de la même façon qu'un Français comme Patrice Carteron a pu entraîner Ahly du Caire et maintenant le Zamalek, je souhaite que dans le même sens, Pitso Mosimane puisse venir occuper un poste qu'aurait par exemple occupé Patrice Carteron. Mmh. Voilà, mmh. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, bien sûr. Mais de toute façon, et comme tu dis, on en est un peu loin parce que si même en France, ils ne reprennent pas des Français qui sont partis à l'étranger, c'est encore une étape.
C'est vrai, c'est une bonne remarque.
Mais je voulais, tu vas voir que justement, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas journaliste, et donc ça va aller dans tous les sens, mais je voulais repartir un peu au début,
oui.
Quand tu t'es intéressé au foot africain, au sport africain très jeune, juste pour, par curiosité, tu faisais comment pour t'informer à l'époque? Tu te rappelles?
Oui.
T'as vu, j'ai fait un bond en arrière, ça ne veut rien dire dans un entretien.
Tu me mets
dans
des 40 ans en arrière, la préhistoire hein, pour toi qui es un jeune homme, mais... C'est vrai que c'était pas simple à l'époque. Oui, je me rappelle bien parce que heureusement, il y avait des revues.
Ouais.
On avait des mensuels, on avait 11, on avait Mondial qui parlait un petit peu d'Afrique. On avait bien sûr France Football chaque semaine, chaque mardi qui faisait des papiers sur le Maghreb, un petit peu sur l'Afrique, l'Afrique subsaharienne. On a eu des gens comme F.E. Croukidane, Gérard Dreyfus, Chimpumpu, Wachimpumpu. On a eu ces Igor Folio, par exemple. Tous ces journalistes-là qui écrivaient dans France Football. On avait mon mentor, aujourd'hui disparu, Fawzi Marjoub, qui écrivait sur le football africain. Et on arrivait à peu près à se documenter, c'est-à-dire à lire avec évidemment un petit décalage, hein, dans des revues, ce qui se passait sur le continent. Moi, j'écoutais pas trop la radio internationale, RFI. Je l'ai écouté bien plus tard, quand j'ai commencé à travailler avec eux. Mais RFI parlait régulièrement. Je regardais les matchs des Africains à la télé. Au début des années 80, on a eu la Coupe d'Afrique, les images de la CAN 84 en Côte d'Ivoire qui sont passées sur Téléfoot. On avait, grâce à Didier Roustan, on avait des papiers au long cours, je te dis, dans les mensuels, 11 mondial, avec Feu Francis Huertas. C'est un nom qui doit te parler. Francis qui était un amoureux du football et de l'Amérique du Sud et de l'Argentine, et donc Francis parlait beaucoup du football africain à l'époque où il allait, avant d'être basé en Amérique du Sud, il était un grand porteur au long cours. Donc France Football, je l'ai cité déjà, et puis une source d'information intarissable. Moi, j'étais collégien, mes meilleurs amis étant originaire de la Seine-Saint-Denis du 93, mes meilleurs amis, ils étaient algériens, marocains, tunisiens, congolais, béninois, camerounais. Et donc, c'était souvent des primo-arrivants. Et ils arrivaient avec leur histoire personnelle. Et on était tout gamins, on avait 10 ans, 11 ans, 12 ans au collège. Alors, ils me parlaient de la jet de Tizi Ouzou. Ouais. Ils me parlaient du Vita Club. Ils me parlaient des Dragons de l'Ouémé. Ils me parlaient de quel club comme ça, du Cara de Brazzaville. Et si bien, du Canon de Yaoundé pour mes potes camerounais. Et donc, j'avais tous ces noms-là dans la tête. Ça me faisait rêver. Je disais, mais bon sang, nous, on a le Bayern de Munich. On a le Real. On a à l'époque Saint-Étienne. Après Bordeaux, et j'avais envie d'en savoir plus, donc j'avais ces personnes qui étaient des personnes ressources, puis j'avais le mensuel auquel ma maman m'avait abonné, puis après quand j'avais un petit peu de sous dans la poche, j'achetais France Football. J'ai tellement aimé France Foot que je suis arrivé à travailler pour ce magazine, tu vois, mais c'était ça à l'époque, parce que c'est vrai, tu as raison, il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas tout ça. Et c'était ça nos sources d'informations. La situation s'est compliquée quand je suis devenu journaliste professionnel parce qu'il n'y avait toujours pas Internet au début. Et donc, à cette époque-là, il fallait rencontrer les gens. C'était les personnes ressources, c'était les entraîneurs, les joueurs quand ils venaient en stage. Je ne bougeais pas encore en Afrique à ce moment-là. Et je suis devenu un habitué du quartier des Champs-Élysées et de tout autour, des beaux quartiers de Paris, là où il y a les ambassades. Parce que tu le sais, dans les ambassades, il y a la presse du pays. Et ils recevaient la presse du pays. Et donc, j'étais devenu un fouineur. Je venais faire ma tournée Toutes les semaines, j'étais dans toutes les ambassades africaines, des pays les moins valorisés par le foot à l'époque. Et j'allais chercher ambassade de Tanzanie, ambassade du Kenya, ambassade du Zimbabwe, ambassade du Bénin, etc. J'étais devenu quelqu'un qui était très connu des secrétaires et des diplomates des ambassades parisiennes. C'est comme ça que ça s'est fait, parce qu'à l'époque, je travaillais pour Afrique Football, qui est un mensuel défunt qui existait entre 88 et 95. Et ben, pour remplir certaines pages, ben, il fallait quand même aller chercher de la doc. Et je compulsais la doc, je faisais parfois des copies. J'étais un moine copiste. Je traduisais les choses, y compris dans des ambassades où on ne parlait pas le français ou l'anglais. Hein. Et je rapportais tout ça, je le digérais, puis je faisais des brèves, des petits trucs comme ça, des choses intemporelles. C'est comme ça qu'on travaillait au début des années 90, il y a 30 ans. Ça doit te sembler un peu étrange, mais voilà, ça m'a permis aussi de développer mon réseau, ma connaissance, alors qu'à l'époque, je n'étais toujours pas allé sur le continent.
Ah ouais, tu vois. Okay. T'écrivais sur le foot africain.
Je n'étais pas encore allé sur le continent. Les gens me disaient, ouais, tu connais bien, mais je leur avouais qu'en fait, à l'époque, je n'avais pas pu encore me déplacer. C'est venu quelques temps après, j'ai pris la décision capitale pour moi de partir en Afrique.
Tu ne pouvais pas, sinon c'était Bryce de Nice qui aime les vagues, mais qui vit à Nice.
Sans jamais les tester, comme on dit.
C'est ça. Et de toute façon, on le voit qu'à l'époque, peut-être aujourd'hui un peu moins, mais tu avais besoin d'aller à la rencontre des gens. Là, au début, c'était dans les ambassades, après tu as dû commencer à voyager, mais l'information, elle était en côtoyant, en allant poser la question, en allant rencontrer les gens.
Crois-moi, c'est pas simple quand tu es timide. Mmh. Moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Il fallait que je me force ma personnalité d'aller auprès des gens, de leur demander des choses, tout ça, y compris dans les ambassades, hein, parce que moi, je ne faisais que consulter la presse. Hein. Rarement, j'ai eu à rencontrer des gens du foot dans les ambassades. Ça aurait été le hasard. Mais j'ai rencontré en revanche des passionnés de foot. Des nationaux. Ah bon, vous intéressez au football de la Tanzanie, du Zimbabwe? Et donc là,
ça crée
du lien. Et ensuite, eux, comme on était en contact, il n'y avait pas encore le téléphone portable non plus, mais quand je les appelais, ils me disaient, bah tiens, on a appris ça, et du coup, moi, ça m'aidait. Et bien après, effectivement, il a quand même fallu pour moi me déplacer, rencontrer des interlocuteurs, et ça se trouvait assez facilement, puisqu'on avait du passage tout le temps à Afrique Football. On avait des entraîneurs, on avait des joueurs, des anciens joueurs. On nous signalait des stages d'équipes nationales qui venaient se préparer en France. Ça a toujours existé, ça. Et du coup, ben, c'était autant de missions africaines, même si c'était sur le sol français. Ça m'a permis de me rapprocher d'équipes nationales comme la Guinée, comme la Tunisie, comme le Burkina Faso. J'ai eu la chance de connaître des joueurs comme Titi Camara. Il était à l'époque stagiaire pro à Saint-Étienne. Il ne jouait pas en équipe première, quasiment, avec le Sili de Guinée. Le Burkina Faso, personne ne le connaissait. Il jouait des équipes amateurs, mais de 8e, 9e division, sur du terrain stabilisé. Et ils ont terminé finaliste de la CAN en 2013. Mais moi, je les ai connus à l'époque où j'aurais presque pu jouer contre eux en match de préparation.
C'était une époque où il y avait un écart énorme.
Considérable. Et la chance qu'on avait, c'est qu'ils venaient faire des stages et qu'ils étaient très disponibles. On pouvait rester avec eux, passer du temps. Donc merci à eux, merci à la Tunisie. J'ai connu Nabil Mahlouli, le capitaine de la Tunisie à l'époque, en 90. Je t'ai parlé du Sili national de Guinée, pareil. Titi Camara, Abdou Salam Sow, Mohamed Sylla Socrates, paix à son âme, et tant d'autres. Le Burkina Faso, Gualbert Kaboré, Albert Bambara, José Mévi, Williams. tous ces gars-là, le gardien Diarra aussi. Toutes ces heures que j'ai passées avec eux, je me souviens des fois on allait faire les courses ensemble, acheter à manger dans ma petite R5, on partait acheter à manger parce qu'ils étaient bloqués dans un centre technique, et ils n'avaient rien, et on partait des fois acheter des gâteaux, des conneries, une boisson sucrée, et c'est comme ça qu'on échangeait. Ils me parlaient de leur pays, et ça je ne l'ai jamais oublié, et ça ne suffisait pas. Ouais. Tu vois, il y a un moment donné, tu as eu accès à ça, tu as envie d'en avoir plus, tu as envie d'aller là où tout a commencé pour eux. C'est-à-dire sur le sol africain, sur le continent. Et ça a pris un peu de temps, mais j'ai mis quelques petits sous de côté, puis j'ai fini par partir et à vivre un peu l'expatriation.
Ok. Et donc, t'es parti où, là ?
Je suis parti en Afrique du Sud à la fin de l'apartheid, en 92. J'ai lâché Afrique Football où j'avais pas trop d'espoir, si tu veux, de percer après presque trois exercices. J'avais pas de perspective d'embauche. On me faisait peu confiance, on me reléguait à des tâches qui étaient de moins en moins intéressantes. Quand tu commences, oui, mais au bout de 3 ans, ça, je tournais en rond. J'avais rencontré un journaliste qui est devenu l'un de mes plus grands amis, qui est aujourd'hui l'un des référents du football africain dans la presse, qui s'appelle Mark Gleeson, qui est un Sud-Africain. Il était venu à l'occasion de l'Euro 92 en France, il était passé, et il m'avait dit « Écoute, prends l'avion ». Tu prends l'avion et puis tu viens chez moi, tu descends à Jobourg. Et je me souviens, j'ai parlé à mon papa, à ma maman, paix à son âme, et j'ai dit, écoutez papa, maman, je vais partir, j'ai envie de connaître ça, j'ai envie d'aller là-bas, c'est un pays qui bouge, c'est la fin de l'apartheid, le pays va être réintégré dans le giron du foot international, il y a des choses à vivre là-bas, j'ai pas beaucoup d'argent, mais il y a quelqu'un qui m'ouvre les portes, c'est un copain, j'y vais. Je suis parti là-bas du jour au lendemain et j'ai passé quelques mois là-bas, à Johannesburg. Et tout de suite, ça a été le contact direct avec le football africain, sud-africain, dans les townships, Orange Stadium de Johannesburg, qui est un des plus vieux stades. J'ai vu jouer les Orlando Pirates. Mon premier match, c'est le derby historique de Soweto, Moroka Swallows, Orlando Pirates. Inoubliable. Qui jouait au Orange Stadium, stade avec des tribunes en bois. Et ça a été ça, et je suis resté plusieurs mois, j'ai vu plein de matchs comme ça, j'ai rencontré Dr Kumalo, j'ai vu le premier match éliminatoire de Coupe du Monde de l'Afrique du Sud sur son propre sol, c'était contre le Congo. La télé sud-africaine m'a demandé de servir de traducteur avec les Congolais, parce que personne ne parlait français à la SABC, ils m'ont dit « tiens, tu peux peut-être nous aider », et ils m'ont invité à la mi-temps du match à venir donner mon point de vue sur ce match que l'Afrique du Sud a gagné 1-0. Et un but de Philemon Chipa-Masinga. Et alors c'était super pour moi parce que je découvrais un pays qui ressemblait un peu à l'Europe, dans ses grandes villes, mais qui en vérité, un pays qui était en grande souffrance. C'est un pays à plusieurs vitesses où les Noirs souffraient énormément. Il y a un truc qui m'a choqué. Je rentre dans un magasin avec un ami noir sud-africain et il remplissait une fiche pour acheter des meubles. Il avait commandé des meubles. Et dans le document, on lui demandait de donner sa race. Je lui dis, mais l'apartheid est fini, pourquoi tu vas remplir ça? Ça m'a fait mal, en fait. Je lui dis, non, tu ne peux pas remplir ça. Ce n'est pas possible. Il me dit, tu sais, chez nous, c'était comme ça. Je lui dis, mais c'est fini, là, vous allez aller vers autre chose. 2 ans après, on sait ce qu'il est advenu, à la fin de l'apartheid, et Nelson Mandela élu. Et je suis heureux d'avoir vécu cette période très difficile pour l'Afrique du Sud. Très difficile pour moi aussi, parce que j'ai vécu des moments de solitude. J'ai été attaqué en ville après un reportage. J'étais attaqué au couteau à Johannesburg. Et ça a été un moment... c'est un moment où, tu sais, tout peut se jouer. Tu peux très bien dire... C'est un moment charnière. C'est un tournant, comme dans un match. Tu aurais pu me dire, tiens, je rentre chez moi. J'ai tout perdu. J'ai plus de papier, j'ai plus d'argent. J'avais commis la bêtise d'avoir ces choses-là sur moi ce jour-là. J'ai été attaqué, on m'a tout piqué. Et... Je me demande encore comment je pouvais avoir ça dans les poches. Enfin, ça, c'est une autre histoire. C'est Mais je me suis dit, j'ai appelé mon papa, ma maman, je leur ai dit, il faut que je rentre là. C'est trop violent, ce pays. C'est un pays où il y a une violence urbaine. Encore aujourd'hui, on l'a vu tout récemment avec les émeutes. Interurbaines à Durban, à Jobourg, tout ça. Mais comment je suis resté? Ça s'est joué là. Je suis resté encore quelques temps, quelques mois. J'ai refait faire mes papiers à l'ambassade de France à Johannesburg. Je suis parti, j'ai changé de local, j'ai changé d'endroit où je vivais. J'ai quitté mon pote Marc pour aller chez mon pote Peter dans une autre banlieue de Johannesburg. Et puis j'ai continué de rencontrer des gens, de voir des matchs, de vivre tout simplement, de m'amuser, de vivre, de faire mon métier, de travailler pour la BBC. Et puis voilà, ça a été lancé comme ça. Et je suis revenu fin 92 parce qu'à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. Et ma future épouse, et je suis revenu pour ça, sans quoi sans doute que je serais resté, quoi. Mais j'avais rencontré cette personne avant mon départ en France. Et mais derrière, ça m'a donné l'envie de retourner très vite.
Et après, toi, t'as toujours vécu entre les deux, entre la France.
Tu es basé en France, je suis parisien. Mais toujours l'envie de retourner, faire des reportages, des fois plus ou moins longs. Des fois, c'était des choses courtes, mais des fois, ça pouvait être un mois et demi. C'est long quand même. Je me suis trouvé coincé en Afrique de l'Ouest en 1994, au moment de la dévaluation du franc CFA. Je suis resté très très longtemps, loin de la personne qui partageait ma vie. C'était dur. La solitude, T'as beau être entouré de gens, mais la solitude du journaliste tout seul dans sa piole, là...
Ouais, des fois, tu dis pourquoi
je suis là. Je suis là, je travaille, mais en même temps, je ne peux pas trop bouger parce que dehors, il y a des émeutes, tout ça, bon. Mais je ne regrette pas. C'était à Bamako. Ouais. Mais voilà, je dis ça et en même temps, j'adore le Mali, j'ai beaucoup d'amis au Mali. C'est un pays qui m'a offert une chance extraordinaire en 2002. J'ai pas fait la Coupe d'Afrique pour France Football à l'époque. Et le quotidien national qui s'appelle L'Essor, qui dépend de l'agence de presse, de la MAP, m'avait demandé de venir travailler. Et on avait monté un supplément pendant la CAN organisée au Mali en 2002 qui s'appelait Ntola. Et j'ai travaillé comme si j'étais moi-même un Malien. Et j'ai vécu la CAN au Mali, à Ntola. On faisait les réunions de presse tous les jours, on écrivait ensemble. On était une famille. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vécu. Et c'est ça aussi, ça a été un moment vraiment marquant. Partager tout ça avec mes amis sur place, le photographe, le chauffeur, les petites mains du journal, ça n'a pas de prix. Et je ne l'ai pas fait pour de l'argent, hein. Crois-moi, ce n'était pas pour l'argent. C'était vraiment pour vivre ce bonheur que le Mali organisait une Coupe d'Afrique chez lui. C'est des moments qui restent gravés. C'est un des plus beaux moments de ma carrière pour une Coupe d'Afrique. Il y a eu 98, le Burkina Faso, parce que je retournais dans un pays que j'avais commencé à suivre quand ils étaient tout petits, puis là, ils organisaient la CAN. Et puis, bien sûr, le Mali que je remercie, parce que l'hospitalité, ce qu'on appelle Diatiguia, c'est pas un vain mot, quoi. Ça existe vraiment. Et merci aux Maliens de leur chaleur.
Oui, parce que là, tu n'étais pas le journaliste étranger. Là,
non, j'étais en famille. Je vivais je vivais dans une mission. On m'avait logé dans une mission qui était tenue par une congrégation chrétienne. Et c'était très drôle comme vie. J'étais dans ce qu'on appelle une cellule, hein, une petite chambre, mais une cellule, comme celle d'un moine. Et tous les jours, je traversais le pont, l'un des ponts de Bamako, pour rejoindre la rédaction. Et ça a été un mois fabuleux. Je souhaite vraiment à tout le monde de vivre ça, vivre en fait la vie d'un Malien, tout simplement, et en restant humble, en restant toujours à sa place. C'est un laboratoire d'idées, Ntola, ce qu'on a fait en 2002. Et j'en suis revenu, non pas transformé, mais c'était comme une bouffée d'air frais pour moi, quoi, parce que à l'époque, j'étais un petit peu coincé à France Football, dans ce que je faisais, j'ai tout fait un peu. Et j'avais posé un mois de vacances pour faire ça. Et je remercierai jamais assez mon ami Souleymane Solo Drabo. C'est lui et son frère Gaoussou qui m'ont ouvert les portes du journal. Encore aujourd'hui, il m'arrive de penser à ça parce que il y a rien de tel que le terrain. On est d'accord ? Rien de tel que le terrain pour le travail, pour l'échange. Il n'y a pas plus fertile que le terrain. Et j'aurais jamais vécu ça s'il ne m'avait pas tendu la main. Donc vraiment, merci à eux, quoi.
C'est marrant parce que ce que j'entends quand tu parles, c'est un peu comme quand je parle avec ces entraîneurs-là dont on a cité les noms comme Patrice Neveu. Mais cet amour du terrain, un peu ce... l'ancien football, ou le vrai football, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais cet amour pour les gens, pour l'humain, et c'est quelque chose qui est en train de se perdre dans ce foot européen un peu aseptisé. Et je le sens encore, il existe encore en Afrique.
Et, Dieu merci.
Ouais, et peut-être que l'avenir du football, en fait, il est en Afrique.
Ça fait un moment, hein. Ça fait un moment que certains le disent, le professent, l'annoncent. Ce qui est certain, c'est qu'il y a il reste une authenticité sur le continent africain. Ça ne veut pas dire que tout y est parfait. Hein. Les clubs souffrent, les petites structures souffrent. Il y a une forme de paupérisation, il y a de moins en moins de moyens, c'est dur. Il y a plus d'argent, mais paradoxalement, on a du mal à bien travailler parce que le football, y compris sur le continent africain, est devenu le foot business. Voilà, c'est un marché. Donc, tu vois, il y a ça. Mais c'est vrai que comment dans la relation, je trouve, elle reste authentique. C'est pour ça que moi, je continue d'entretenir quotidiennement ce lien avec 55 pays africains, parce que je considère que Zanzibar, c'est le 55e. Voilà. Et échanger avec des joueurs et avec des entraîneurs qui me racontent leur réalité. Être en prise avec ça, savoir ce qui se passe, comment ça se passe, quels sont leurs problèmes, quelle est la réalité. Voilà. Tout ça est très important, même si on va de plus en plus vers une forme de professionnalisme, avec parfois aussi ces dérapages. Mais je suis content, je suis fier de voir des clubs qui aujourd'hui n'ont absolument rien à envier à ce qui se fait en Europe. Voilà, ils n'ont pas à rougir de la comparaison. Oui, je suis désolé.
Les installations sont bonnes.
Il y a de très bonnes installations, il y a des moyens pour travailler, tout ça. Après, il y a des pays qui restent malheureusement en souffrance, et certains, c'est de leur faute. Quand je pense à ce qui se passe actuellement au Gabon, pays où le sélectionneur est Patrice Neveu, on a parlé de lui tout à l'heure, il n'y a pas de championnat depuis des années, c'est pas normal. Ça veut dire que c'est des générations de joueurs qui sont sacrifiés. Ils n'ont plus été payés depuis longtemps, il n'y a plus d'activité, on ne sait pas quand le championnat gabonais reprendra. Comment font les clubs? Comment font les joueurs? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont pu continuer? C'est un désastre pour la scène locale. Et heureusement, il y a une cinquantaine de pays où ça continue. Si tu as le temps, je t'invite à t'intéresser à ce qui se passe dans un pays qui est décrit comme une poudrière permanente en Afrique, la Somalie. Est-ce que tu sais que les matchs sont retransmis sur Facebook en intégralité, qu'ils ont un habillage à l'européenne avec présentation des matchs, etc. Des stades pleins à Mogadiscio. Alors que c'est un pays dont on sait qu'il est très instable sur le plan... sur le plan de la politique, hein, avec beaucoup de problèmes d'attentats et tout. Eh bien, en Somalie, on arrive, le football revit, existe de nouveau. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas le cas dans un pays comme le Gabon ? Donc, il y a plein d'interrogations. Est-ce qu'il faut nécessairement beaucoup d'argent pour faire repartir les choses ? J'en suis pas persuadé. Mais tout ça pour dire que j'essaye d'être attentif à toutes ces réalités, et c'est des réalités qui diffèrent d'un pays et d'une région à l'autre. La Somalie, c'est pas le Gabon, c'est pas le Soudan, ni l'Afrique du Sud. Donc voilà, à chacun sa réalité. Sortons de cette image de l'Afrique du Sud est une. Elle n'est pas une, l'Afrique du Sud. L'Afrique, elle est, c'est 54-55 pays, autant de réalités.
Et ça te fait quoi de te battre contre, ou en tout cas, tu défends ce foot de ces 55 pays? Et en même temps, ici, il n'y a pas trop d'intérêt, ou ça, on a du mal à parler de ce foot-là, ou l'autre point dont j'ai cité dans un autre épisode, où il n'y a un peu que les mauvaises images de ce foot africain. On ne parle pas de la Somalie, on ne parle pas de ces stades pleins et de cette retransmission à l'européenne, ou c'est encore mal dit à l'européenne, mais bon, cette retransmission de très bonne qualité en Somalie. On parle de ces sélections qui voyagent et qui sont obligées de dormir à l'aéroport parce qu'il y a un problème avec leur passeport. On parle que de ces côtés-là qui font le buzz, mais qui sont pas... Il n'y a pas que ça. Ça te fait quoi, tout ça?
Mais en tant que journaliste, j'ai envie de te dire qu'on peut faire les deux. En plus, tu parles d'un papier, notamment sur ce qui s'est passé avec le Gabon, que j'avais écrit.
On l'a vraiment en tête, parce que Patrice Neveu, qui est un bon ami à toi, et là, j'ai vu il n'y a pas longtemps, donc on est autour de Patrice Neveu, il va penser que...
Oui, non, mais c'est vrai que c'est un papier que j'ai écrit pour France Football il y a quelques mois en arrière, parce que c'est quelque chose de très choquant. En l'occurrence, où est l'hospitalité à l'africaine ? On a laissé des gens dormir à terre dans un aéroport. Et en fait, tout ça a eu des effets extrêmement négatifs sur la préparation d'un match de Coupe d'Afrique des Nations, qu'ils ont perdu d'ailleurs, hein, contre la Gambie. Donc, je crois qu'on peut parler de tout. On n'en a pas fait les choux gras, hein, parce qu'on n'en a pas fait la une. Mais c'est normal de parler de ça, parce qu'on parle aussi des choses qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal. Le problème des tests, la tricherie sur les tests Covid en Afrique, c'est une réalité. C'est pas faire le buzz avec, c'est dire que ça existe et qu'il y en a qui en usent et en abusent pour piéger des adversaires. Voilà. Je pense qu'on peut parler de tout, qu'on peut parler des réalités positives, et il y en a beaucoup. Et puis, il y a aussi des moments où il faut parler de ce qui peut fâcher et ce qui fonctionne moins. Ça, c'est ma vision médiatique, tu vois.
Bien sûr. Mais après, moi, je ne parle pas des journalistes, mais plus sur les gens ici en France, que ça ne les intéresse pas.
Ça, c'est vrai. Mais ça a beaucoup changé, là, encore. Ayant commencé ma petite carrière dans les médias en 89-90, à l'époque, c'était pire. Alors là, maintenant, on arrive régulièrement à la radio, à la télé, dans la presse écrite, on arrive à faire des papiers et parler de ça. Et on sait qu'on va trouver des oreilles ou des yeux attentifs. Ça a été pour moi, effectivement, comme une sorte de combat. Ça a un peu échappé aux gens, et c'est pas bien grave, honnêtement, hein. Je leur en veux pas. Mais c'est vrai que moi, pendant des années, je me suis fait fort comme ça de faire la promotion du football africain. Et ça m'a valu des fois d'être un peu moqué en disant « Ouais, c'est une démarche paternaliste, etc. » Nanana. Non, je le faisais pas sous cet aspect-là. Je me disais « On parle, on ne valorise, on valorise plus aujourd'hui l'Amérique du Sud, qui est bien plus loin de chez nous, que l'Afrique, alors que notre pays, en l'occurrence la France, a quand même mis le pied depuis 150 ans, 200 ans en Afrique, a pillé ses ressources, ses richesses, y compris humaines. Et je vois pas pourquoi aujourd'hui on ne valoriserait pas justement cette richesse-là, sportive en particulier, non pas les défendre, mais les mettre en avant, mettre ces réalités positives en avant. Et c'est pour ça que je parlais, j'étais content d'être l'un des premiers à évoquer Titi Camara à l'époque, et d'autres quoi. Pierre Aubameyang, le papa de Pierre-Emerick Aubameyang, etc. C'est un de mes amis, Pierre. Je le connais depuis plus de 30 ans. Et j'ai vu Pierre-Emerick tout petit. À l'époque, à la maison, c'était rigolo d'ailleurs de le voir tout minot. Abedi Pelé avec ses fils, pareil, on les a connus gamins. Donc ça fait bizarre après de les voir quand ils ont la trentaine. Y a beaucoup d'exemples comme ça. Je suis heureux d'avoir fait partie de ceux qui ont cru à ça, qui ont cru à ce football, à ses qualités. C'est pas une fierté, c'est simplement de se dire c'est un football qui méritait qu'on s'y intéresse sérieusement. Voilà, parce que la plupart du temps, tu as raison. C'était pour s'en moquer. Les problèmes de primes avant les Coupes du Monde, les sélections bloquées dans les aéroports, etc. etc. Y a même un moment donné, on parlait que des, entre guillemets, pas de la sorcellerie, mais voilà, de toutes ces pratiques mystiques, etc. Faut arrêter avec ça. Bien sûr, ça fait partie des réalités, mais ce n'est pas que ça. C'est autre chose, le football africain. C'est un football qui est compétitif, même si, honnêtement, ces dernières années, au niveau des équipes nationales, il nous a plutôt rendu triste. On n'a pas vu d'équipe en capacité d'aller chercher une Coupe du Monde ou de remporter encore un titre olympique. Il n'empêche, moi c'est ma passion, je continuerai jusqu'à mon dernier souffle.
on a de la chance alors d'avoir quelqu'un comme toi, et j'espère que vous êtes plusieurs.
Oui, il ne faut pas s'inquiéter. Heureusement, il y en a. Okay. Y en a d'autres.
Et je voulais parler, j'ai plein de sujets, malheureusement on ne va pas pouvoir parler de tout, mais non, le foot de rue en Afrique, c'est vraiment visuellement, j'en parle, je pose souvent cette question, ça doit être assez impactant maintenant qu'il n'existe plus ici.
Et puis le foot de rue, ça peut être ce qu'ils appellent le Maracana, par exemple en Côte d'Ivoire, sur des petits terrains, donc des petits terrains bétonnés avec des mini-buts, hein, des petits poteaux. On joue à 4-5, il y a des championnats, il y a une fédération et tout.
Le Maracana, c'est
ça. Ouais, ça s'appelle le Maracana. 5, c'est du foot très technique, en fait, il n'y a pas de gardien. Hein. Des buts très, très, très bas. Ouais. En fait, voilà, tu n'as pas besoin d'un gardien, en vérité. Tu mets un joueur de champ. Il y a ça, on ne joue pas forcément en godasse de foot. On porte des léqués en Côte d'Ivoire. C'est les sandalettes de plage.
Ah, ils jouent au foot
plastique. Ouais, on joue avec ça. Tu pourras regarder des photos de joueurs ivoiriens très connus, des grands joueurs. Ils aiment avoir leur léqué au pied. Voilà, parce qu'on porte les léqués, les sandalettes plastiques, blanches ou de couleur, on les porte. Et on joue le Maracana. Puis après, on joue très tôt le matin avant qu'il fasse trop trop chaud. Puis après, on va s'installer dans un maquis, un petit restaurant à ciel ouvert. Et puis on va partager une boisson sucrée ou une bière fraîche. Et puis manger un poisson braisé ou quoi. Et voilà, ça fait partie de la vie de tous les jours. C'est dans un quartier où il y a des gens. Hein. T'as des échoppes, t'as des gens qui passent tout autour, qui se mettent autour, qui s'arrêtent. Et puis, ça crée une animation. Et oui, le foot de rue, que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes qui jouent le Maracana, et ailleurs, c'est très important, bien sûr. Il y a des pays où il y a quand même un gros déficit d'infrastructures. Je me souviens, feu Henri Michel, quand il était au Maroc, il me disait que c'était le problème, que le foot de rue, c'était vraiment, pour le coup, dans la rue, c'est-à-dire en bas de chez toi, parce qu'il mettait des cailloux, puis il jouait là, sur la chaussée, parce qu'il n'y avait pas forcément des petits terrains de proximité comme on en a en Europe, hein, des terrains cloisonnés, avec des buts en plastique et tout. Et il y avait des pays qui n'avaient pas forcément ça. Mais en fait, en Afrique, on joue au football partout. Par tous les temps, à tout moment, du jour, de la nuit, des jeunes, des vieux, des mamans, des jeunes filles, tout le monde joue. Pieds nus ou avec des godasses. En fait, tout le monde, c'est une passion. Sur des terrains ocre, sur du béton où ça fait quand même un peu plus mal. Rarement sur des bons gazons, malheureusement. Voilà, il faut en revanche un effort au niveau des équipements. C'est ce qui manque globalement sur le terrain, sur le territoire du continent africain. C'est plus d'installations pour permettre aux plus petits de pouvoir jouer. Mais bon, après, ils jouent dans les cours d'école.
Mais par contre, Oui. Toi, tu n'avais pas trop ta place, parce que sur un terrain, il faut jouer au Maracana ou sans gardien, toi qui es un ancien gardien.
C'est compliqué. Ouais. Et j'aurais pas osé parce que je ne suis pas bon techniquement. J'ai du mal avec mes
c'est
mains.
Pour ça, les...
Donc, mais c'est des super joueurs. Hein. Et là, pendant les vacances, régulièrement, les pros actuels ivoiriens qui rentrent au pays, à Abidjan, ben, ils se retrouvent à jouer le Maracana. Entre eux, tu les vois là, donc avec les maillots de leur club, ils mettent des chasubles par-dessus, et puis bah il y a les gens du quartier qui sont là, à Yopougon, à Bobo ou je sais pas où, ils disent tiens bah on a caissier, on a tous ces joueurs là qui viennent, c'est les enfants du pays, ils sont là et ils sont avec eux. C'est
faut
ça.
Faut pas trop le dire parce que je pense que leur club ici après ils seraient pas.
Non, ils le savent. Ils le savent qu'ils vont se relaxer au pays. Il y en a, ils font de la. Il y en a, ils vont faire du hors-bord ou je sais pas quoi. Donc là, qu'ils jouent au ballon avec des copains,
ouais,
c'est pas bien grave. Hein. Non, ce qui est embêtant, c'est quand tu fais des excès au niveau de la bouffe et que tu reviens avec un excédent de poids. C'est ça qui fâche plutôt les clubs. Mais bon, voilà.
On peut prendre du poids avec la nourriture.
La nourriture africaine, le manger africain, il est bon et parfois c'est un peu gras. Et si tu fais pas assez de sport, bah tu peux charger un peu. Il y a des joueurs très célèbres, je vais pas citer leur nom. Quand ils rentraient en Europe, il fallait qu'ils passent par une petite
cure de.
Franchement, il fallait qu'ils fassent gaffe à la reprise des entraînements, quoi.
Ah ouais.
Mais en dehors de ça. Tu l'as peut-être noté, le nouveau président de la Confédération africaine, qui est un Sud-Africain, qui s'appelle Patrice Motsepe, a décidé de créer une compétition autour du football scolaire. Est-ce que ça va aider un petit peu à structurer les choses ? Bon. J'ai vu que ça avait commencé ce foot scolaire au Bénin, qui est un pays un peu pilote actuellement.
Ouais, avec Jimmy Adjobi
Boko. Avec Jimmy Adjobi Boko. Donc voilà, le Bénin, c'est déjà illustré. C'est le premier exemple à ma connaissance où le championnat scolaire qui a été incité, suscité par le nouveau président de la CAF a commencé. Maintenant, je pense qu'il y a encore plein d'autres choses à faire dans le football africain. Et c'est bien de structurer, mais voilà, il y a d'autres dossiers très chauds, je pense.
Et il y a aussi une compétition, on ne parle pas beaucoup ici, mais qui est très importante en Afrique, c'est le CHAN. Je te critique pas, je dis pas que t'as pas bien fait ton travail. Non, mais c'est fou.
Ah, parle, moi, pour le coup.
Non, je sais.
c'est une bonne remarque.
Par moi, je connaissais pas. Mais c'est intéressant de raconter ce qu'est le CHAN.
Ouais.
Et l'importance que ça va prendre, je pense, à l'avenir aussi.
Tu vas être déçu par ma réponse. Le CHAN, ça a été créé par à l'initiative de l'ancien président de la CAF, qui s'appelle Issa Hayatou, qui a été à la tête de la Confédération africaine de 88. À 2017, je crois. Oui, 39 ans. 39 ans quand même, hein. Pas rien. Hein. Et il a créé le championnat d'Afrique des Nations en se disant ben, il y a des pays qui, malheureusement, dont les équipes nationales ont très peu de matchs. Donc pourquoi pas créer une compétition uniquement réservée aux joueurs évoluant dans leur propre championnat. Voilà. Donc t'es tunisien. Si tu joues dans ton championnat tunisien, tu te qualifies avec ton équipe de joueurs uniquement du championnat tunisien, tu vas faire une phase finale. Ça ressemble à la Coupe d'Afrique des Nations. Sauf que ça n'a pas le goût de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est fait pour les locaux. C'est-à-dire que tu peux être un Tunisien évolué en Maroc, tu ne pourras pas jouer. Alors après, on est quelques-uns à plaider en faveur des Africains qui jouent sur le continent
africain.
En dehors de leur pays, en disant franchement, c'est un peu injuste pour eux, puis en plus, ça rendrait les équipes meilleures, les équipes d'Africains d'Afrique meilleures. Donc on a eu première édition en Côte d'Ivoire en 2009, puis qui n'a cessé de grandir jusqu'à l'édition 2020, qui a lieu en janvier cette année au Cameroun. Perso, j'adore cette compétition. Ah ouais, j'ai suivi la 2018 au Maroc, remportée par le Maroc. J'ai suivi la 2020 organisée par le Cameroun, un peu répétition de la CAN, remportée encore une fois par le Maroc.
Parce que ça joue différemment à une CAN.
Ça n'a rien à voir. C'est moins, on va dire, je trouve le jeu moins, un peu plus fou. Un peu moins aseptisé parfois qu'avec les équipes nationales constellées de joueurs européens. Enfin, quand je dis de joueurs européens, tu m'as compris. De joueurs africains basés en Europe et hors d'Afrique. Voilà, donc c'est un football un peu plus libéré, peut-être plus de déchets, un peu plus fou dans son expression. Et puis tu découvres plein de types. Voilà, enfin, moi, je me suis régalé de découvrir l'équipe locale tanzanienne, le Mali, avec ses latéraux, Bakayoko et Samake. La Guinée de Morlaï Silla, qui était élu deuxième meilleur joueur du tournoi, le joueur du Oroya. Mais franchement, j'ai commenté, je crois, 12 matchs dans ce tournoi. C'était...
Pour Canal Plus Afrique.
Afrique, ouais, le Rwanda et tout ça. Mais quel bonheur,
ouais.
La Libye. Franchement, on ne se rend pas compte de la richesse de ces footballs-là avant d'avoir pu, voir, avant d'avoir pu en témoigner sur ces matchs-là. Et il n'y a pas assez, je dirais, effectivement, on ne met pas assez l'accent dessus. Les médias africains, un petit peu. Les médias européens, non, parce que ce n'est pas, c'est pas leur tasse de thé, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que le travail des sélections nationales locales ne passe pas inaperçu. Qu'il y ait des... qu'on continue de le susciter, ce travail, d'inciter les techniciens, les fédérations, de leur donner des moyens, parce que bien souvent, le spectacle est pas mal, mais ils ont peu de moyens. C'est des miracles, parfois. Et oui, ils font des trucs bien avec très peu de moyens. Et permettre aussi à ces joueurs d'être vus par des clubs sud-américains, asiatiques, européens. Faire en sorte que les envoyés des clubs soient présents sur ces compétitions. Ils viennent, mais bon, en gros, ils disent « ouais, le niveau est faible » et tout ça. Je ne suis pas d'accord. Personnellement, je me suis moins emmerdé à commenter des matchs du CHAN que certains matchs de la Coupe d'Afrique précédente 2019 en Égypte. Franchement, je me suis régalé, et je le dis régulièrement.
Ouais, on l'a dit, ouais.
C'était franchement très agréable. Voilà. Et il faut arrêter de se dire « ouais, c'est des gars qui jouent dans des clubs du Rwanda, dans des clubs de Tanzanie. Non, non, ils n'ont pas le niveau. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut donner la chance au produit. Il y a des super joueurs. Et ceux qui sont passés à côté de ça, tant pis pour eux. Malheureusement, dans le football français, on n'est pas très novateur. On ferme les yeux là-dessus. Tant pis pour les clubs français. Si ça peut profiter à d'autres, eh bien, tant mieux. Et en vérité, on espère que les grands gagnants, ce seront les joueurs africains eux-mêmes. Bon, le foot africain indirectement. Mais voilà, moi, si ça bénéficie à certains de venir... Il y en a déjà certains qui ont quitté leur pays là, pour aller dans d'autres clubs. Je parlais des Maliens notamment, qui ont été finalistes du dernier CHAN. Tant mieux. Le Maroc est encore gagné. Il y a des joueurs qui sont annoncés à l'extérieur. Et d'autres comme ça. Bravo. Tant mieux pour eux. J'espère qu'ils vont prouver à ceux qui n'ont pas eu, qui n'ont pas cru en eux, bah, qu'ils ont cette qualité-là.
Mais c'est des beaux concepts. Hein, que, oui. Donc il y a des choses comme ça.
Mais tu vois, pour terminer, petite parenthèse que je vais refermer très vite. La Confédération africaine de football a décidé qu'à partir de maintenant, le CHAN aurait lieu non pas tous les deux ans, mais tous les trois ans. Et je suis dégoûté.
Et c'est
la décision est tombée.
Et pourquoi ?
Décision politique de la Confédération africaine il y a quelques jours, là, avant la finale de la Ligue des Champions au Maroc. Ils ont décidé tout simplement de faire... Ils veulent maintenir la CAN tous les deux ans, ça ne changera pas. En revanche, le CHAN passera tous les trois ans. Donc ça va faire glisser encore ce tournoi dans le temps. Et
ouais, c'est dommage.
Je suis déçu. Je suis déçu. En plus, je suis comme toi, j'aime bien ce tournoi-là. J'ai pris beaucoup de plaisir à commenter des matchs, à découvrir des joueurs, parce que c'est le football qu'on aime, c'est le football du terroir. En plus, comme je commande des matchs aussi de clubs, dans les compétitions interclubs, je retrouve les joueurs. Des gars que j'ai vus, des Tanzaniens que j'ai vus avec l'équipe nationale, je les ai retrouvés avec Simba, par exemple. Et là, se dire qu'il va falloir attendre si longtemps pour la prochaine, je trouve que c'est dommage.
On va finir par un sujet moi qui me tient à cœur. Toi, tu as vu un peu cette histoire de Jean-Marc Guillou au début, c'était dans les années 90. Donc je le répète, je l'ai déjà répété dans plusieurs épisodes. Mais donc Jean-Marc Guillou a commencé une académie en Côte d'Ivoire. Et en quelques années, il a formé les meilleurs joueurs du pays, voire du continent, comme les Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho et beaucoup, beaucoup d'autres. En les recrutant, en allant les chercher à l'âge de 10-12 ans. Toi, tu as vu ça un peu de près.
Comment tu sais ?
tu peux me raconter comment tu les as découverts ? L'histoire est intéressante.
Oui.
Et encore une fois, je trouve que c'est quand même un bon symbole de ce qui se fait en Afrique et
oui.
de cette qualité du foot africain.
D'accord. Alors déjà, de rectifier une chose,
voilà.
Je ne les ai pas découverts,
non.
C'est bien Jean-Marc et son équipe qui les ont découverts. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'époque journaliste indépendant, freelance, et j'étais parti faire la finale de la Coupe des clubs champions entre l'ASEC et les Orlando Pirates de Soweto. J'avais commenté la finale aller et le match retour, je voulais le vivre à Abidjan. Donc je reviens à Abidjan, j'y allais à partir de 94, j'y allais tous les ans, et je reviens pour ce match et je vais au camp d'entraînement à Solbeni. Et en arrivant, je m'étonne de ne voir aucun joueur senior, mais que des gamins. Et Jean-Marc Guillou. Alors je vais voir Jean-Marc, qui était manager général de la SEC. Et je lui dis, coach, qu'est-ce qui se passe? Où sont les joueurs? Et c'est là qu'il m'a dit qu'ils étaient partis à Yamoussoukro se préparer. pour éviter d'être à Abidjan, être embêté. Et du coup, je lui dis, mais c'est qui tous ces gamins? Ben, il me dit, ben, ça, c'est mes minots, c'est mes gamins, c'est mon académie. J'ai dit, académie. Et c'est là que, bah, sous mes yeux, bah, j'ai vu les petits Siaka Tiene, Chico, effectivement, Kolo Touré, Aruna Dendane, Junior, on avait aussi
Maestro,
Zokora, etc. etc. Ils n'avaient pas tous leur surnom puisqu'on leur donnait après. Et il m'a expliqué ce qu'il venait de lancer un an et demi plus tôt avec des gamins. Et comment il avait recruté d'abord ces gamins, comment il les avait choisis, hein, il avait tamisé, hein, parce qu'il en avait vu des milliers. Il avait lancé cette académie et tout simplement, il voulait faire de ses enfants non seulement des professionnels, mais aussi des internationaux qui pourraient jouer des compétitions internationales comme la Coupe du Monde et éventuellement offrir la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques à la Côte d'Ivoire. Évidemment, moi, je voyais des minots de 11, 12 ans, tout petits, comme ça. Non, je ne pensais pas ça parce que j'avais déjà ce respect pour
non,
Jean-Marc.
Mais fou dans la...
Oui, mais fou. Oui, parce que c'est un truc incroyable hein, de se projeter si loin. Et je me disais, mais c'est quand même incroyable ce que Jean-Marc veut faire. Et finalement, il n'est pas arrivé si loin que ça de ses objectifs, puisqu'il
incroyable
a eu
quand même comme histoire.
Des gars qui ont remporté la Ligue des Champions en Europe. Certains, en fin de carrière internationale, ont gagné la CAN. En 2015, comme Copa Barry, les frères Touré que tu disais, etc., Gervinho, etc., etc. Je me dis que j'ai eu la chance de me trouver là à ce moment-là. Je ne suis pas venu pour les voir eux, seulement ils étaient là sous mes yeux. Et ça m'a beaucoup ému de voir ces minots. Je voyais des gamins qui jouaient très bien, pieds nus et tout ça. Puis j'ai vraiment interrogé Guillou. J'ai encore mes carnets de notes avec tout ce qu'il m'a raconté de l'époque. Et... il se projetait déjà des années plus tard. Il y croyait, il était sans doute le seul à y croire. À la SEC, le président Roger Wénien l'avait laissé développer ce projet. Ils ont eu raison. Malheureusement, les hommes se sont fâchés. Il y a eu des histoires de gros sous, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais le modèle, en fait, le modèle JMG Academy a fait des petits. On le disait tout à l'heure avant l'émission. Avant le podcast, on parlait de tous ces endroits où il a essaimé. Donc, ça prouve que voilà. Ouais, ça a marché. Alors après, pas forcément avec la même réussite partout en dehors de l'Afrique. D'accord ? Mais on a aussi des joueurs qui sont sortis du système Guillou, y compris en Europe. Hein. Le Belge Jason Denayer, par exemple, il sort de ce système-là. Voilà. Et c'est magnifique. C'est une très belle aventure. Et là encore, je dis bon Dieu, merci bon Dieu de m'avoir permis de me trouver là, d'avoir vu ces enfants. Et de les avoir suivis pour certains jusqu'à très récemment, puisque je suis même allé voir à l'époque en Belgique, à Beveren. J'en ai vu certains quand ils ont fait leur premier pas avant la Coupe du Monde 2006. Les Eboué Emmanuel, Yaya Touré, que j'avais connu aussi un petit peu à Beveren, etc. Copa Barry, je suis resté très proche de lui, le gardien de but. Je l'ai vu à Lokeren après qu'il ait inscrit ce pénalty qui a donné, ce tir au but qui a donné le titre aux éléphants. Moi, dans mon cœur, ils occupent une place à part. Je ne suis pas le seul à pouvoir témoigner de ça. Hein. Les Ivoiriens eux-mêmes ont vu grandir ces enfants-là. Ils sont la fierté de l'Afrique, pas seulement de la Côte d'Ivoire. Et peut-être qu'un jour, ben, qui sait, peut-être qu'un jour j'écrirai sur eux. J'aimerais bien en tout cas faire quelque chose pour évoquer ce parcours formidable. Parce que ben, c'est, y avait un côté très romantique à l'histoire, pas que. Mais j'ai aimé vivre ça. Et encore une fois, c'est le hasard du destin.
Ouais, le hasard ou c'est quand on est sur le terrain et on voyage. Si tu étais resté ici derrière ton ordinateur, bon, à l'époque, il y avait.
Non, il n'y a pas encore tout ça.
Mais bon, c'est pas en restant derrière l'ordinateur qu'on peut provoquer cet hasard.
Il y a une dernière chose que je voudrais évoquer qui va nous faire sortir du champ d'exploration de ce continent africain qu'on aime tellement. J'aurais évoqué en fait le. Ce qui aujourd'hui reste mon meilleur souvenir professionnel. Alors, je l'ai déjà écrit, mais là, ça me permet de le verbaliser. En 2010, après la Coupe du Monde, 2010 ou 2011 ? 2010, après la Coupe du Monde en Afrique du Sud, mon rédacteur en chef de l'époque, Denis Chaumier, à France Foot, m'a demandé d'aller faire un reportage en Palestine. Et tu vois, ça nous éloigne de l'Afrique.
Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit, lui, il voyage, c'est facile de l'envoyer là-bas.
J'ai l'impression qu'il avait, il avait essuyé des refus de certains. Et moi, j'ai dit, banco, j'y vais, j'ai envie d'aller. J'ai vécu une semaine fabuleuse en Cisjordanie. Ça m'a valu beaucoup de critiques, des insultes. Mais ce que j'ai vu sur place, la détresse des gens, ça m'a aussi évidemment fait penser au continent africain certaines situations. J'ai vu jouer l'équipe nationale, j'ai vu l'équipe féminine. J'ai eu la chance de côtoyer deux hommes formidables, le sélectionneur et son adjoint qui est Nordine Ouldali, qui ensuite est revenu en Palestine, qui est un franco-algérien. Et le sélectionneur national, c'était Moussa Bezaz, donc lui aussi franco-algérien. Et ils m'ont ouvert les portes de cette équipe nationale du football palestinien. Des 11 ans après, je reste marqué par ce voyage et par tous les épisodes, hein, parce que c'est moins le ballon que les rencontres. Et c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est les rencontres avec les gens. Et voilà, j'ai vu beaucoup de choses qui me faisaient penser aussi au continent africain. Et mon bonheur pour eux, ça a été de voir que des années après, la Palestine, avec toutes ses difficultés pour exister, pour vivre et survivre, eh bien, ces footballeurs ont réussi à la qualifier deux fois pour la Coupe d'Asie des Nations.
Dans des pays comme ça, que tu évoquais aussi la Somalie, où tout peut être compliqué, mais le foot continue à exister et ça marche. Et les gens continuent à jouer.
C'est ce qu'on aime. Voilà. Et puis, en fait, c'est un passeport pour le bonheur, pour mettre du sourire sur le visage des gens. Les gens souffrent, mais il y a le match. Les gens, des fois, attendent toute la semaine pour avoir un match à se mettre sous les yeux. Et pendant ces moments-là, ils oublient un peu les souffrances. Pendant quelques heures, quelques minutes, on a un peu de bonheur grâce à ce ballon qui est là, qui roule et qui nous permet de rencontrer plein de gens et qui devrait être un vrai facteur de paix, je trouve, et d'union, d'unité, mais qui ne l'est pas toujours et qui malheureusement parfois déborde sur des violences terribles. Hein, et ça, c'est un petit peu le bémol. Mais bon, je ne vais pas jouer les donneurs de leçons. Je souhaite vraiment continuer à vivre ces moments-là parce que c'est ce qui fait le sel de la vie. Les rencontres, le terrain, et puis encore beaucoup d'années à sillonner le continent africain, puis échanger. Et quand tu as entendu dans cette dimension d'échange, donner et apporter aux autres. Quoi. C'est pas prendre, c'est donner aux autres. Ouais.
Bah, je te le souhaite, je nous le souhaite. Merci beaucoup, à toi. Franck. À très bientôt. Hâte de continuer à te suivre et suivre tout ce que tu vas nous raconter sur ce foot africain et sur ce foot international.
Merci à toi et puis bon vent à ce podcast qu'on apprécie déjà beaucoup, comme tu le sais.
Merci beaucoup. Merci Franck pour ce moment de partage. Je dois te dire, depuis que j'ai commencé ce podcast, j'ai discuté avec plein d'acteurs de foot africain et notamment des entraîneurs, et j'ai entendu que du bien sur toi. Je ne comprenais pas au début. C'est pas très courant pour un journaliste. Mais maintenant, je comprends mieux. J'ai senti un homme intègre, avec des convictions fortes pour valoriser le foot africain et un amour profond pour ce continent. Voilà, vous venez d'écouter le 26e épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt. Baila, baila,